enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Hier, j'ai passé un petit moment avec Claude, on était ensemble dans un bureau et on discutait. On ne s'était pas vu depuis quasiment 5 semaines. Et on faisait un bilan de ce qu'on vivait en tant que pasteur, ce qu'on vivait ici à l'église, mais aussi à l'extérieur. Et on faisait le constat suivant. On se disait ensemble, eh bien, on ne rencontre pas beaucoup de différences entre les gens qui se disent chrétiens et qui ont fait une expérience avec Jésus-Christ et les gens du monde. Très souvent, nous sommes attristés de voir que dans le peuple de Dieu, eh bien encore, il y a des temps de violence dans les familles, violence verbale, parfois violence physique. Il y a parfois aussi des gens qui, eh bien, viennent nous voir et nous disent: pasteur, j'ai un problème, ça fait tant et tant d'années que je connais le Seigneur, et puis j'ai toujours le même problème d'alcool. Des gens qui viennent nous dire, je suis lié à la pornographie. Et pendant tout ce temps où j'étais pas là, ce genre de choses m'a fait réfléchir et m'a percuté. Est-ce que le peuple de Dieu est vraiment différent de celui qui ne connaît pas le Seigneur ? Est-ce que nous sommes des hommes, des femmes à part? Est-ce que nous donnons envie à ceux qui nous entourent? Alors rassurez-vous, hein, je ne me suis pas nourri d'acide chlorhydrique pendant le temps où j'étais pas là. Mais quand même, mon cœur est parfois inquiet. Inquiet lors de certaines visites, lors de certaines rencontres. De toute évidence, il doit y avoir une différence entre ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui vivent avec le Seigneur, et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Il doit y avoir une différence. Et cette différence doit se voir. Cette différence est visible. Elle est tangible. Lorsque Dieu vit dans le cœur de quelqu'un, il dégage quelque chose. Il est rempli de la paix de Dieu. Il est rempli de l'amour de Dieu. Il est rempli de cette sérénité qui nous donne une assurance que le monde n'a pas. Le Seigneur que nous aimons et que nous servons est un Dieu puissant. Et il fait la différence. Il a fait la différence avec le peuple d'Israël. Et il veut faire la différence avec nous. Sommes-nous prêts à accepter cela dans nos cœurs? Sommes-nous prêts à être des hommes et des femmes différents, différentes et différents? Je sais que c'est un challenge qui n'est pas simple, mais lorsque Christ vit dans nos cœurs vraiment, c'est de manière naturelle que les choses vont se faire. Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, est-ce que vous croyez que Dieu est parfait? Amen. Il est parfait. J'en suis convaincu. Alors pourquoi devrions-nous continuer à vivre dans la médiocrité? Pourquoi? Pourquoi devrait-on se satisfaire d'une vie médiocre? Pourquoi des gens viennent demander des entretiens aux pasteurs pour leur dire: frère, ça fait tant et tant d'années que je connais le Seigneur, mais je ne vis rien. Il ne se passe rien dans ma vie. Pensez-vous que cela est normal? Qu'ils viennent voir le pasteur, c'est formidable. C'est qu'il a raison. C'est qu'il réalise que quelque chose ne tourne pas rond. Que quelque chose ne va pas. Et qu'il y a un désaccord entre ce que la parole de Dieu m'enseigne et ce que je devrais être censé vivre et ce que je vis en réalité. Pendant ce camp famille, il y avait des gens qui venaient de toutes les régions de France, et aussi de tous horizons religieux. Et j'ai abordé également ce sujet avec les personnes. Nous avions beaucoup de temps devant nous, j'ai eu beaucoup d'entretiens. J'ai répondu aussi à des séries de questions-réponses. Et j'étais effaré par le nombre de chrétiens qui étaient dans un état de dispute avec des membres de leur famille, pour diverses raisons. Combien de gens se disputent pour un héritage, par exemple. S'il y a des choses à changer dans nos vies, eh bien, mes frères, mes sœurs, mes amis, ne perdons pas de temps. Le temps presse. Jésus revient bientôt. Les choses se précisent à une vitesse impressionnante. Et ce soir, je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans un passage que nous connaissons tous. Et plusieurs d'entre vous réciter ce passage de manière régulière. Je voudrais qu'on ouvre la Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 6 et au verset 9 et on va lire la prière que Jésus nous a enseignée. Vous savez de quelle prière je veux parler? On va la lire ensemble, à haute voix. Dès que vous êtes prêts, nous allons lire cette prière. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. On y va. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je me suis rendu compte que dans cette prière, Jésus insistait de manière forte sur le pardon. Et l'un des problèmes du peuple de Dieu, c'est le manque de pardon. Et je voudrais ce soir m'entretenir avec vous sur le pardon. Dans cette prière, Jésus nous enseigne d'abord à chercher Dieu, à honorer Dieu, à chercher Dieu et sa justice. Il nous enseigne aussi à demander au Seigneur ce dont nous avons besoin. Et puis, il nous apprend aussi à redouter le péché, à nous méfier des ruses du diable, à résister à la tentation et aussi, par la même occasion, à ne pas devenir nous-mêmes des tentateurs, des séducteurs. Cela existe aussi dans le peuple de Dieu. Et puis, il y a la chose la plus importante, sans aucun doute pour moi, qui est l'élément du pardon dans la prière de Jésus. À la fin de cette prière, après le Amen qu'on a lu ensemble, c'est rajouté le verset 14 et 15. Dans l'Ancien Testament, Dieu a déclaré qu'il y avait un jour très important, c'est le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et aujourd'hui encore, pour le peuple d'Israël, c'est le jour le plus important de l'année. D'ailleurs, pour ceux qui viendront avec moi en Israël, on sera en plein, pendant notre voyage, dans la journée de Yom Kippour. On verra un peu l'ambiance qu'il y a en Israël. Qu'est-ce que Dieu avait décrété ce jour-là? Ce jour-là était spécial, c'était le seul jour où le souverain sacrificateur avait non pas l'autorisation, mais le devoir de rentrer dans le lieu très saint, le seul jour. Et pendant qu'il entrait dans le lieu très saint, le peuple était réuni autour de la tente d'assignation et suppliait le Seigneur pour le pardon de ses péchés, pour le pardon de ses fautes. Le grand prêtre rentrait et il était attaché par une corde, les autres sacrificateurs tenaient la corde, et autour de lui il avait des clochettes qui le remuaient sans arrêt, et les clochettes signifiaient simplement qu'il était encore vivant. Il risquait de mourir en entrant en contact avec la puissance de l'Éternel. Et lorsque le grand prêtre avait fini, il ressortait, la corde servait simplement au cas où le grand prêtre ne ressortait plus, eh bien à le tirer dehors, parce qu'aucun homme ne pouvait rentrer dans le lieu très saint sans risquer à son tour de mourir. Donc si le grand prêtre ne trouvait pas la faveur de Dieu, on avait encore la corde de secours pour le sortir du lieu très saint. Le pardon est une chose essentielle dans le plan de Dieu. Il y a dans ce verset 14 que nous avons lu une promesse. Si vous pardonnez, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Nous devons pardonner pour espérer être pardonnés. Et ceux qui désirent trouver la miséricorde de Dieu doivent montrer de la miséricorde à l'égard des autres, à l'égard de ceux qui les ont fait souffrir. En d'autres mots, Dieu nous dit, c'est dans la mesure où toi, tu vas mesurer, que moi, je vais te mesurer. Sommes-nous conscients de cela? Qu'est-ce que le pardon? Tout d'abord, au moment de la conversion, lorsque l'on donne son cœur à Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de tous nos péchés par le Seigneur. N'est-ce pas une nouvelle extraordinaire? Éphésiens chapitre 1, verset 7. Nous en avons la confirmation, il y a d'autres passages qui le confirment, mais nous avons la confirmation que le jour où nous donnons notre cœur au Seigneur, nous venons à lui de tout notre cœur, nous demandons pardon pour nos péchés, nous sommes lavés de tout péché, nous dit la parole de Dieu. Le second aspect du pardon concerne ceux qui sont enfants de Dieu et qui ont perdu la communion et la paix à cause du péché qu'ils ont commis en cours de route dans leur nouvelle vie. Les conditions à remplir pour obtenir ce pardon-là est double. Il faut confesser notre péché, c'est la première chose, confesser notre péché, et puis l'abandonner, ne plus recommencer. Plusieurs textes bibliques nous confirment ce que je dis, 1 Jean chapitre 1 verset 9, Psaume 66, 18, etc., etc. Et puis le troisième aspect, le plus important, est de pouvoir pardonner ceux qui nous ont fait souffrir, ceux qui sont pour nous des débiteurs et qui ont péché à notre égard. Et c'est certainement la chose, l'aspect le plus difficile du pardon. Et je le conçois. Je le conçois. Pardonner correspond à notre propre libération. Si nous sommes capables de pardonner, nous allons être des hommes et des femmes libres. Libres. Et en paix dans notre cœur. C'est d'autant plus difficile à pardonner lorsque notre vie a été brisée par quelqu'un. Je suis conscient de ce que j'avance ce soir. Et j'ai entendu des confessions, j'ai entendu des choses terribles. Des gens qui ont perdu parfois un être très cher, assassiné. Ou des personnes qui ont été abusées dans leur enfance, qui ont souffert des choses affreuses et qui me disent « Mais à quoi ça sert de pardonner puisque ma vie est de toute façon brisée ?» La réaction classique à ce genre de situation, c'est justement de ne pas pardonner pour garder sa dignité. Quoi lui pardonner à lui? mais quand même, pasteur, j'ai un peu de dignité. Ça, c'est le classique. Mais en analysant la parole de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Pardonner, ce n'est pas effacer le mal. De toute façon, les traces sont là, pour certaines, parfois même visibles physiquement, indélébiles. Pardonner, c'est se libérer en effaçant une dette insolvable du criminel pour le mal qu'il nous a fait subir, pour la souffrance qu'on a eue, et ainsi retrouver le goût à la vie, parce que les personnes qui ne pardonnent pas ont un goût de vie amer. Le pardon, à mon avis, est souvent très mal compris. Et je le comprends, je comprends qu'on a du mal à saisir lorsqu'on a souffert des choses terribles. Une phrase classique que l'on entend souvent dans la bouche des personnes qui accordent le pardon, c'est « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Vous avez souvent entendu cette phrase. Moi, je l'entends très, très souvent. Une telle phrase est la preuve que notre blessure est encore une plaie ouverte et qui, à chaque instant, peut s'infecter à nouveau. La plaie ouverte qu'on ne veut pas refermer, même si on en connaît les risques et les conséquences. C'est l'exemple d'une femme qui rappelle à son mari son adultère, alors qu'il lui a confessé son adultère, il lui a demandé pardon. Ils ont été d'accord ensemble sur le principe du pardon. Mais à la moindre occasion, cette vieille histoire revient même 30 ans, 40 ans après. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Et chaque fois, c'est une blessure qui s'ouvre pour celui qui a commis la faute, mais aussi pour celle qui a subi la faute. Dire « Monsieur, c'est impardonnable !» J'entends cela quelquefois. C'est impardonnable. C'est tenir le doigt sur la plaie qui est ouverte. Mais dès qu'on enlève le doigt, ça saigne. Le pardon, le non-pardon, est une source de maladie. Il y a peut-être des médecins parmi nous, mais qui confirmeront certainement ce que je suis en train de dire. Le non-pardon est une source de maladie. Lorsque la haine, la rancœur, la rage est dans une âme, tôt ou tard, cette haine, cette rage va ressortir sous forme de maladie. Il y en a des quantités. Ça va de la dépression au cancer, à toutes sortes de choses. Je ne suis pas médecin, mais les médecins sont d'accord pour dire qu'un certain pourcentage des cancers est lié à la haine, à des chocs, à des malheurs. J'ai rencontré un jour une dame qui souffrait terriblement dans son âme, mais aussi dans son corps. Et son problème était simple. Elle n'a jamais pu pardonner à son père ce qu'il lui avait dit dans son enfance et ce qu'il lui avait fait vivre dans son enfance. Et cette dame me disait, « Je ne comprends pas, pasteur. Voyez, mon père est atteint d'un cancer et lorsque j'ai appris qu'il avait un cancer, je me suis renseigné et le médecin qui le traitait me disait qu'il n'en avait que pour 3 mois à vivre. Mais pasteur, ça fait 6 ans qu'il a son cancer. » Et je lui ai dit, écoutez, si votre père n'est pas encore mort, c'est parce qu'il vous attend. Il vous attend. Prenez le courage de prendre contact avec lui. Et vous savez ce que m'a répondu cette femme ? Elle m'a dit, pasteur, je pense que lorsque mon père sera mort, ça ira mieux chez moi. Je lui dis, écoutez madame, si vous pensez que la mort de votre père va vous soulager, je suis navré de vous décevoir, mais votre situation va empirer et va devenir dramatique pour vous si vous ne rectifiez pas le tir. Je lui ai proposé mon aide, Je lui ai proposé d'aller voir son père, de prendre les devants, de préparer les choses. Elle a refusé. J'ai appris quelques mois plus tard le décès de son papa. Et aujourd'hui, bien cette dame va de mal en pis. Et sa situation est dramatique. Refus de pardonner. N'oublions pas la valeur du pardon que nous avons tous reçu en Jésus-Christ. Vous êtes tous comme moi, très heureux d'avoir reçu le pardon de notre Seigneur. Et à quel prix ? À quel prix ? Il a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Il a payé un prix énorme. Le pardon, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, est une véritable puissance qui va libérer nos cœurs. Et j'ai moi-même fait cette expérience. Le pardon est plus qu'un sentiment. C'est une force qui déclenche des effets remarquables dans nos vies. On va le sentir quand on a réussi à pardonner. On va se sentir mieux. On va sentir des choses bouger dans nos vies. On va avoir, vraiment, on va recevoir les fruits de notre vrai pardon qui vont se traduire automatiquement sur notre vie quotidienne, dans nos faits, dans nos gestes, dans nos attitudes. Et ceux qui vont être autour de nous ne vont pas nous reconnaître en règle générale. J'ai souvent entendu ces témoignages. Un jour, j'étais invité chez un homme dont la femme venait de faire une expérience avec Jésus-Christ et qui, dans son cœur, avait été libérée d'un poids, d'un fardeau, de choses terribles qu'elle avait vécues dans son enfance. Et le jour où elle a réussi à pardonner, sa vie a été changée au point où son mari m'a fait venir et m'a demandé « Mais pasteur, qu'est-ce que vous avez fait avec ma femme ? C'est plus la même. » Un poids était parti de sa vie. Une vie nouvelle commençait pour elle. Pardonner est donc un acte lourd de sens qui ne peut en aucun cas être pris à la légère. Et le pardon est un processus. Plus la blessure est grande et profonde, plus le processus de pardon sera long. N'imaginez pas que vous pouvez pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, un mal profond. N'imaginez pas que d'une seconde à l'autre, vous allez pouvoir lui pardonner. Le pardon est un processus qui est parfois long. Et la première étape du processus, c'est la douleur et la logique de la douleur. Plus on essaye de garder en dehors de notre conscience les mauvais souvenirs qu'on a eus, plus ils deviendront puissants. Et plus ils nous rattraperont de diverses manières. En niant notre douleur, nous donnons une opportunité à l'ennemi de venir avec force dans nos vies et de nous voler les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Les signes de la douleur sont souvent la honte, la colère, la haine, la méchanceté, le dégoût, la tristesse, la dépression, les envies de vengeance, etc., etc. La personne à qui l'on accorde son pardon doit savoir quelle est l'importance de la blessure qu'on a subie. En quelque sorte, on va lui adresser la facture. Et c'est indispensable. J'en ai moi-même fait l'expérience. Un jour, en tant que gamin, adolescent, j'ai pris une raclée de mon père, mémorable. Une raclée comme jamais je n'avais eue. Mais cette raclée, je n'ai jamais su pourquoi je l'avais eue. Et ça a été terrible dans mon cœur. J'ai su par la suite que c'était mon meilleur ami d'enfance qui avait dit des choses à sa mère qui ne correspondaient pas du tout. Sa maman a raconté ces choses à mes parents et en rentrant, j'ai pris une raclée. Et puis le temps a passé. J'ai enfoui ces choses à l'intérieur de moi-même. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai eu ma vie. J'ai eu une excellente relation avec mon père. Mais parfois, dans les moments où je m'y attendais le moins, mes pensées étaient traversées par cette fameuse raclée. Et j'avais plus de 35 ans. Un jour, je suis arrivé chez mes parents Et puis on était tous ensemble avec mes frères, je ne sais plus à quelle occasion, c'était toute la famille était réunie, il y avait une super ambiance. Et puis papa nous racontait les âneries qu'on faisait et les parfois les corrections qu'on avait les uns et les autres, etc. Et c'était le moment que Dieu avait préparé pour moi, pour que je puisse mettre les choses à plat devant mon Père, avec mon Père. Et avec beaucoup de calme, beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité, je lui ai dit, papa, tu sais, tu te souviens un jour de cette raclée? Il dit, non, je me rappelle pas. Lui s'en rappelait pas, mais moi j'avais été marqué. Et c'est souvent comme ça. Quand on a été offensé par quelqu'un, l'offenseur se rend même pas compte de ce qu'il a fait. Souvent. Pas toujours, bien sûr. Mais souvent. Et on a discuté ensemble. Et tout d'un coup, mon père a compris. A compris ce qui s'était passé dans mon cœur. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et il m'a pris dans les bras, comprenant que ce jour-là, la raclée que j'avais prise était injuste. Et à partir de là, j'étais complètement libéré dans mon cœur. Complètement libéré. Le pardon est donc un processus. Il est important de faire la facture à celui qui nous a offensé. La deuxième étape, je dois abandonner mon droit d'être en colère. Mon droit d'être amer. Oui, on pourrait se dire, mais c'est normal, il t'a fait subir ça, mais c'est terrible, c'est normal que tu agisses avec agressivité, c'est normal que tu gardes cette amertume physiquement, oui, spirituellement, non. La troisième étape, je dois désirer la réconciliation, et là c'est terrible, certains me diront même, mais pasteur c'est impossible, pasteur, vous voulez quand même pas que je me réconcilie avec cet homme qui m'a violé un jour. Parfois, c'est impossible. Ce que le Seigneur attend de moi, c'est mon désir sincère de pardonner. Il sait très bien que je ne peux pas. Il le sait. Mais ce qu'il attend de ma part, c'est « je veux ». Le reste, pour moi, tient du miracle. Parce que pour moi, le pardon, dans certains domaines extrêmes, eh bien c'est un miracle, et rien d'autre qu'un miracle. On a besoin du miracle de Dieu. Et ce que Dieu attend de ma part, c'est « je veux Seigneur, je peux pas, mais je veux ». J'ai suivi un homme pendant de nombreuses années qui avait subi des choses terribles dans son enfance, qui a été dans des pensions et qui avait souffert. Et notamment, sa maman l'avait fait souffrir un jour de manière particulière. La pension dans laquelle il était avait simplement dit que, eh bien, il se comportait mal. Et sa maman avait, à l'époque, fait 40 kilomètres à bicyclette. Ça se passait après la guerre. 40 kilomètres à bicyclette et elle avait dans son bagage, dans son petit panier, un ceinturon. Et lorsque elle est arrivée à destination, elle a appelé son fils et au milieu de tout le monde, elle l'a frappé, elle a remis son ceinturon dans sa bicyclette, elle est rentrée chez elle. 40 kilomètres dans l'autre sens. Ça a été affreux pour cet enfant. Et cet enfant a grandi avec ça. Et plus tard, ça a été des conflits terribles entre lui et sa maman. Et puis les conflits se sont arrêtés pour la simple raison qu'il ne se voyait plus. Et cela a duré des années, des années, des années. Et cet homme, un jour, a donné son cœur au Seigneur. Il a donné son cœur à Jésus. Et puis, connaissant son histoire, je suis allé le voir et je lui ai parlé du pardon. Il savait très bien de quoi je voulais parler et il s'est mis à pleurer. Il a pleuré et il m'a dit « Je peux pas, pasteur, je peux pas. Je pourrai jamais, jamais. » Et je lui ai dit « Tu sais, moi je comprends et je crois, je sais, je comprends que tu ne peux pas. Mais je crois que Dieu est le Dieu du miracle et que lui peut faire un miracle. Tout ce qu'il attend de ta part, c'est « je veux ». Et il a continué à pleurer, on a prié ensemble et on s'est quitté. Quelque temps plus tard, des événements sont arrivés au cours de sa vie Et un jour, il vient vers moi en pleurant et me dit, je veux pardonner. Je veux. Je lui dis, ok, on va prier maintenant et on va attendre que Dieu fasse le miracle. Et on a encore attendu des mois et des mois et Dieu a créé les circonstances qui ont permis qu'il rencontre sa maman et qu'il se demande pardon après des années et des années où ils ne se sont pas vus ni même adressé la parole. Mais Dieu a fait le miracle. Pourquoi il avait fait le miracle? Parce qu'il avait dit, je veux. Je peux pas, mais je veux. Et c'est tout ce que Dieu attend de notre part. C'est tout ce que Dieu attend de notre part. La quatrième étape, c'est de recréer une relation avec mon offenseur. Et alors là, certains vont me dire, mais pasteur, vous allez trop loin. Vous allez trop loin, pasteur. Recréer une relation avec mon offenseur, mais c'est pas possible. C'est déjà pas mal si je lui pardonne. Oui, mais jusqu'où va le pardon? J'étais chez un homme, il y a quelque temps de cela, qui m'a fait venir. Un homme qui connaît le Seigneur, qui aime le Seigneur, et qui sert le Seigneur avec tous les moyens que Dieu lui a donnés. Et il était très en colère le jour où il m'a fait venir. Il m'a dit, ça suffit, j'en ai marre, je comprends plus rien, je fais plein de choses. Il m'a énuméré tout ce qu'il faisait pour le Seigneur. Et il me dit, résultat zéro, je ne vois aucune bénédiction, je ne suis pas béni dans ma vie. Et j'étais très embêté, j'étais là et pendant une demi-heure, j'entendais des reproches et c'était un appel au secours et il avait en face de lui un type impuissant qui ne pouvait pas l'aider. Et dès que j'ouvrais la bouche, c'était tout de suite une attitude de réserve en disant « Mais est-ce que par hasard tu cherches un péché dans ma vie ?» Je dis « Non, non, mais moi je ne comprends pas. » Et Dieu, dans sa parole, est simple. Et Dieu répond toujours. Et si tu me dis que ta vie est clean et claire, moi je ne sais plus, je ne sais pas quoi te dire. Je peux juste prier avec toi. C'est tout. Et sur cet entrefait, sa femme, qui n'avait rien dit pendant tout ce temps, dit simplement, mais tu sais quand même avec maman. Alors je le regarde, je lui dis, t'as un problème avec ta belle-mère. Les belles-mères, vous savez, c'est un cadeau que Dieu nous donne pour tester nos nerfs, notre patience, notre foi, notre persévérance et notre amour. Il me dit, non, j'ai pas de problème avec ma belle-mère, j'ai eu des problèmes, mais je lui ai pardonné. Je dis, okay, tu lui as pardonné? Tu lui as vraiment pardonné? Pas de problème, on s'est parlé, je lui ai pardonné, on a mis les choses au point, je lui ai pardonné. Et là, Dieu m'a inspiré. Le Saint-Esprit m'a inspiré à ce moment-là. Je lui dis, donc, tu te réjouis d'avoir au ciel comme voisine ta belle-mère. Et là, il a poussé un cri. Jamais! Vous riez, mais c'était pas marrant. C'était pas marrant. Et j'étais dur avec lui, avec du recul. Je lui dis, écoute, je vais te dire quelque chose de grave, mais à mon sens, si tu n'acceptes pas que ta belle-mère soit ta voisine au ciel, tu risques, toi, de ne pas rentrer au ciel. Et ça l'a choqué. Ça l'a choqué, il s'est mis à pleurer. On a prié ensemble. Je ne sais pas aujourd'hui où elle en est avec sa belle-mère. Mais ce qui était clair, c'est que Dieu est venu à mon secours à ce moment-là, et à son secours aussi, j'en suis persuadé. Prenons très au sérieux la parole du Seigneur, la prière de Jésus. C'est la seule prière qu'il nous a laissée, la seule. Mais quelle est lourde de conséquences si nous n'obéissons pas à ce précepte? Dans le livre des Colossiens, au chapitre 3, verset 13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. » Le lien parfait. Et je pense que nous avons besoin tous les jours de notre vie, de supplier le Seigneur de nous remplir de son amour à lui. Cet amour qui est parfait, qui nous rend capables de supporter les choses, qui nous rend capables d'aimer notre oppresseur, celui qui nous a fait souffrir, qui nous rend capables de prier pour lui de sorte qu'il soit sauvé et qu'il devienne un voisin pour l'éternité. Réfléchissons quelques instants à cela. Moi, je suis sauvé. Le Seigneur m'a pardonné. Mais lui, il va en enfer. Est-ce que je l'aime assez pour désirer le voir vivre près de moi au ciel ? Si nous pouvons accepter que l'agresseur repentant soit pardonné, nous ne recevrons pas non plus la consolation pour la souffrance causée par son agression. C'est pas possible. Il y a un texte qui est très intéressant dans la parole de Dieu, j'aimerais qu'on le prenne ensemble. Ce texte se trouve dans Matthieu, chapitre 18, verset 21. C'est l'apôtre Pierre qui va s'approcher de Jésus et lui parler. Vous connaissez ce passage, et ce qui est intéressant, c'est ce que Jésus va lui dire, et ce qu'il va rajouter après sa réponse, c'est une parabole qui est très importante. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Verset 21, je ne sais pas si j'ai donné le verset. « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Le royaume des cieux est semblable à un roi, hein, c'est ce que le texte nous dit, qui veut faire rendre compte à ses serviteurs. C'est pourquoi, eh bien, quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Verset 25, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Terrible ! C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Mais ça me fait réfléchir. Ça me remet en question. Où en suis-je aujourd'hui avec le pardon ? Où en suis-je aujourd'hui ? Le temps passe, je vais m'arrêter. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est qui est-ce qui m'a fait du tort dans ma vie ? Et comment est-ce que j'ai fait pour lui pardonner ? Est-ce qu'aujourd'hui, du fond de mon cœur, je désire le voir régner avec moi au ciel? Est-ce que c'est une éventualité que je peux voir au fond de mon cœur? Est-ce que je peux me réjouir de son salut? Se poser la question, pourquoi je suis prêt à lui pardonner? Je suis prêt à lui pardonner parce que je sais que pour moi, ça sera libérateur. Je sais que pour moi, je vais vivre une nouvelle dimension avec mon Seigneur. Je vais vivre plus dans la médiocrité, plus dans l'échec, mais dans la réussite des promesses que Dieu nous a faites. Est-ce que vous croyez cela ? Moi, j'en ai assez de la médiocrité. Jésus nous appelle à vivre dans la perfection, non pas dans la médiocrité. Le pardon, c'est avant tout un cadeau qu'on se fait à soi-même lorsqu'on pardonne. Il y a d'autres aspects du pardon que je n'ai pas le temps de voir ce soir, mais qu'on verra peut-être ultérieurement. Il y a ceux qui doivent nous demander pardon. Il y a ceux à qui nous devons demander pardon. Il y a les réparations que nous avons à faire parfois. Il y a tout un panel extraordinaire encore à analyser dans le pardon. Mais je pense que celui qui est le plus lourd, c'est ce que nous avons vu ce soir. Pour moi, pardonner, c'est retrouver la paix. C'est trouver la vraie paix. Cette paix inébranlable. Cette paix qui fait que on peut dire de vous tout ce qu'on veut. On peut vous faire tout ce qu'on veut. Vous êtes conscient que Jésus est à côté de vous. Vous le sentez. Et il est là, celui qui veille sur vous. Celui qui nous promet de subvenir à tous nos besoins, quelles que soient nos circonstances. Il n'a pas dit qu'on n'aurait pas de problème. Est-ce que vous avez lu dans votre Bible que vous n'aurez jamais de problème ? C'est pas ça, hein ? Par contre, il a dit qu'il serait toujours avec nous et qu'il nous donnera toujours une solution. Et la solution ultime, à la fin de notre vie, c'est d'habiter avec lui, dans la paix et le repos total. Nous allons maintenant prier un instant. Seigneur, nous sommes devant ta face et nous implorons ton nom puissant. Et moi, je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci pour ta fidélité, te dire merci parce que tu es celui qui a transformé mon cœur, ma vie, et qui m'a permis, Seigneur Jésus, de réparer certaines choses dans ma vie, des fautes que j'ai commises, où j'ai pu, par ta grâce, aller demander pardon. Et je te remercie pour ces moments que toi tu as préparés, Seigneur Jésus. Mais aussi, Seigneur, je veux particulièrement te bénir pour les moments où tu m'as rendu capable, moi-même, Seigneur, de pardonner ceux qui m'ont offensé, ceux qui m'ont fait du mal, Seigneur Jésus. Et je veux te louer particulièrement, Seigneur, parce que tu as fait de moi un homme libre. Mais tu vois aujourd'hui le fardeau qui est sur mon cœur, sur nos cœurs de pasteurs en général, Seigneur. C'est de voir le peuple de Dieu qui ne vit pas dans la dimension que tu as prédestinée pour nous, Seigneur. Tu as fait de nous un peuple différent. Et Seigneur, tu as des choses à nous dire. Nous avons des choses à rectifier dans nos comportements, dans nos vies. Tu veux nous sanctifier, Seigneur. Tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt nous chercher. Et tu veux sanctifier la vie de chacun de nous. Tu veux nous purifier, Seigneur. Tu es en train de laver nos vêtements. Tu laves mon vêtement. Tu laves le vêtement de tous ceux qui veulent vraiment être prêts pour le jour des noces, pour les jours de ton retour. Tu prépares ton épouse que nous sommes, Seigneur, en tant qu'Église. Et nous voulons, Seigneur, te laisser entrer dans nos cœurs. Peut-être, ce soir, il y a des personnes qui se sont reconnues dans les différents sujets que j'ai abordés, dans les différentes souffrances, peut-être qui ont été abordées au cours de cette soirée. Et tu vois les blessures, Seigneur Jésus. Tu vois les plaies ouvertes. Ma prière ce soir, Seigneur, c'est de te demander vraiment que les uns et les autres puissent te dire ce soir, Seigneur, je veux, je peux pas, je ne peux pas, mais je veux Seigneur, je veux. Et je sais que lorsque l'on dit je veux, alors toi tu vas préparer, même si ça dure un certain temps, tu vas préparer les circonstances, tu vas préparer les conditions idéales, Tu vas préparer le temps, le lieu, le moment précis où le miracle va pouvoir avoir lieu, Seigneur. Et je te bénis pour cela, et je crois à cela pour l'avoir vécu plusieurs fois. Seigneur, je t'en supplie, touche les cœurs. Ne permets pas qu'aucun de mes frères, de mes sœurs ne se perde à cause d'un non-pardon. Qu'aucun ne soit malade à cause d'un non-pardon. Seigneur, agis dans les cœurs. Agis dans les cœurs. Seigneur, parle ce soir à plusieurs. Certains se trouvent dans, notamment deux sœurs se trouvent dans la situation précise de personnes qui ont été abusées dans leur enfance et qui vivent avec ce poids et qui rejettent de toute leur force le souvenir de ce qu'elles ont vécu. Incapables de pardonner, Jésus vous parle ce soir. Mes enfants, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi et faites-moi confiance. Je suis votre Dieu et ce n'est pas à vous de régler ce problème. Ce problème, c'est moi qui l'a réglé sur la croix de Golgotha. Et c'est moi qui vous dis ce soir que je vous tiens dans ma main. Je vous aime et je veux vous restaurer. Je veux ôter le poids qui est sur votre vie. Je veux fermer la porte à l'ennemi. Ne craignez rien. Ne craignez rien parce que je suis votre Dieu. Restez dans la paix. Restez dans le calme. Et cessez de dire c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis votre Dieu, je suis le Dieu de l'impossible. Je suis celui qui purifie, qui pardonne. Le Seigneur veut encore toucher un homme. Ce soir, vous êtes là et vous vous trouvez sale. Vous trouvez sale parce que vous avez, dans votre jeunesse, commis des choses, des vols, des larcins, pour vous adonner à la drogue. Et aujourd'hui, cela vous pèse. Ce temps est révolu et il vous reste ce poids sur votre cœur. Et Jésus vous pardonne également ce soir. Et à vous aussi, il vous dit, viens à moi de tout ton cœur, je t'aiderai. Je vois dans ton cœur que tu as peur de mettre les choses en règle, que tu as peur, mais je suis ton Dieu et je te guiderai pour mettre les choses en règle. N'aie aucune crainte. Le fait de mettre les choses en règle devant les hommes vont te permettre d'être un témoignage puissant à ma gloire. Et tu ne connais pas aujourd'hui les conséquences d'une repentance. Je suis ton Dieu, je suis avec toi. Et ce soir, tu es poussé à mettre les choses en règle. Mon esprit est avec toi. Ne crains pas, mets les choses en règle. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Te louer et t'adorer. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Et nous voulons ensemble, Seigneur, nous réjouir. Parce que tu es celui qui va faire de ta maison, une maison pleine de vie, pleine de joie, une maison pleine de louanges. Et nous voulons ensemble, Seigneur, saisir les victoires et proclamer le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.